those who really love you. Walk up and down outside the wall. Some hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
Une fois dehors, Jules se dit, c'est fini. Il marche, il fait très froid. Un vent glacé traverse ses vêtements. Malgré ses gants, il a l'onglé. Il n'a pas envie de rentrer. Il n'y a personne dans les rues. Jules avance péniblement. À cause du vent, il pleure sur lui-même. Je ne serai jamais heureux. Personne ne m'aimera. Il marche sans s'en rendre compte pendant une heure. La nuit est tombée. À cause du froid et du vent, sa bouche est sèche. Il a de plus en plus soif. Il passe devant un petit café ordinaire, d'une petite rue ordinaire qui se trouve en bord des portes de la Croix-Rousse. Il entre dans le café. La salle est petite, sombre, enfumée. Elle sent le mauvais vin, la cigarette et l'humidité. Il y a quelques clients qui fument et boivent au milieu de la pièce, un poêle à charbon. Au comptoir, un gros homme à casquette, à tiblier et cigarette aux lèvres. Jules va au comptoir. Et pour monsieur, qu'est-ce que ce sera ?
Jules n'ose pas demander un café ou un thé dans cet endroit. On le prendrait pour une femmelette.
Un verre de vin, s'il vous plaît.
Du Beaujolais ?
Oui, si vous voulez. Le bistroquet voit qu'il n'y connaît rien. Il prend un litre sans étiquette et le sert.
Jules a tellement soif qu'il boit d'un coup. Ça ressemble plus à du vinaigre qu'autre chose. Ça ne lui a pas déchaussé la bouche. Un autre, s'il vous plaît. Ah, il vous plaît celui-là, c'est du bon. Il vient de ma cave privée. Je ne sers qu'à ces messieurs. Jules ne dit rien. Il se dit qu'il doit le prendre pour un imbécile. Et il lui remplit son verre. Il le boit. Cette fois, il se sent mieux. Une douce chaleur envahit son corps. Il a chaud à la tête et aux oreilles. Encore un autre. Le cafetier ahuri le sert. J'ai jamais vu ça. Au bout de troisième, il se sent sûr de lui, et même un peu joyeux. Mais là, il est prêt à tout. Mais il a une légère nausée. Vous en voulez un autre ?
Non, merci.
Jules sort des pièces de sa poche de son manteau pour les mettre sur le comptoir. Et s'éloigne.
Et la monnaie ? Gardez tout, merci.
Et il sort du café.
Il fait nuit et toujours froid, mais il le sent moins. Il se remet en marche en se disant « Puisque personne ne veut que je l'aime, est-ce que personne accepterait de faire l'amour avec moi, comme ça ? Suis-je désirable ? Suis-je tentant ? Est-ce que l'on peut désirer mon corps ? Comment le savoir ? Avec ma sœur, c'était pas la même chose. Et puis c'était une fille. Mais avec un garçon. Est-ce que je les attire ? J'ai envie de le savoir. Comment ? J'allais me mettre dans un coin et attendre. Il se met à rire comme un fou. Si mon père le savait, moi, en vente, même pas en échantillon gratuit. Il décide d'aller dans un endroit sur les quais du Rhône où c'est réputé pour ce genre de rencontre. Mais au fur et à mesure qu'il se rapproche du lieu, son idée devient plus sérieuse. Son corps se serre. Il a vraiment envie qu'on le désire et entrer ce plaisir spécial que l'on ne peut avoir qu'avec un autre. Des mains aimantes sur son corps que l'on trouve beau. Il arrive sur le quai du Rhône. Il fait encore plus froid. Le vent est plus fort. Il s'arrête presque en face d'une pistière. Les quais sont déserts. Et il attend, plein de désir, prêt à se donner. Malheureusement, il n'y a personne. Il attend un bon moment. Le froid est très vif. Mais grâce au vin, il le supporte mieux. Il voit arriver à lui un homme grand, mince, habillé d'une redingote marine. Il porte un chapeau. Il passe devant Jules en le regardant. Jules lui sourit. L'homme se penche et lui dit « Quoi ?
Tu cherches quelqu'un ? M'excuse, mais j'ai pas le temps. » C'est dommage, et il s'éloigne. Puis revient et demande tout bas.
Ce serait combien ?
Jules lui sourit aux épaules et lui dit. C'est pas pour ça, c'est pour voir, comme ça. L'homme est surpris.
C'est vrai ? Mais pourquoi ?
parce que ça me fait plaisir.
Ça ne t'ennuie pas de faire ça avec moi?
Non, pourquoi?
Parce que je suis vieux et pas très beau, alors que je ne veux jamais forcer personne, même si c'est pour de l'argent. Alors, ça ne t'ennuie pas que je sois vieux?
Non, bien au contraire.
C'est vrai?
Oui, alors tu veux?
Je ne sais pas, il se fait tard, peut-être une autre fois. Tu es de Lyon?
Oui et non.
Tu es souvent là?
Non, alors?
Au revoir, bonne nuit.
Je lui dis, ça dépend de... Tu ne veux pas? L'homme hésite, fait un pas et revient vers Jules.
Et lui dit, ma foi, si je ne te revois plus, je risque de le regretter toute ma vie. Tu sais où aller? Un endroit tranquille?
Non.
Et chez toi?
Non, c'est impossible. L'homme hésite.
L'on va chez moi?
Je ne dis pas non.
Oui, mais tu ne fais pas chanter.
Non.
Viens.
Et Jules le suit. Le vieux lui dit.
Il y a une chose qui m'embête. C'est que j'ai été souvent attaqué.
Ne craignez rien. C'est juste pour le plaisir.
Si tu veux quelque chose, tu le demandes.
Mais je ne veux rien.
Je n'arrive pas à y croire. Un si joli garçon. Quel visage tu as. Et puis de ses yeux.
Jules sourit. Ils ont quitté les quais du Rhône et s'enfoncent dans la ville. Les nouveaux quartiers.
Le vieux lui demande, tu as quel âge?
Je suis majeur.
C'est vrai?
Oui, je t'assure. Il fait toujours aussi froid. Les rues sont désertes. Jules ne sait plus où il est. C'est pas facile de se repérer. Il est complètement gelé et a hâte d'arriver. Le vieux le regarde et lui sourit. Jules se dit qu'il doit être heureux, que ce doit être une chose extraordinaire pour lui. Le vieux lui dit,
moi, qui sais que je suis moche depuis l'âge de 6 ans, ça me fait tout drôle d'avoir auprès de moi un si joli garçon.
Il arrive dans une petite rue faite d'immeubles neufs.
C'est là, troisième immeuble.
Jules le suit. Le vieux appuie sur un bouton pour faire ouvrir la porte d'entrée. L'allée est grande, large, en marbre.
C'est au cinquième.
Il y a un ascenseur hydraulique qu'ils prennent. Arrivé au cinquième, le vieux va ouvrir la porte de son appartement, qui se trouve à gauche.
Entre. Il entre. Ferme la porte. Le vieux
éclaire le plafonnier au gaz. L'entrée est claire, tapis est crème. Il y a deux portes, une en face de la palière et l'autre à droite. Celle qui est en face est à double battant et vitrée. Jules est gelé et à l'onglet. La chaleur de l'appartement amplifie la chose, surtout l'onglet, et ça lui donne des nausées, comme s'il allait vomir. Le vieux le voit.
Tu es gelé, mon petit. Il faut que tu enlèves tes vêtements pour te chauffer. Viens, mon petit. Viens.
Le vieux va ouvrir la porte de droite. Jules le suit. Il longe un petit couloir. Deux portes, à droite, une à gauche et une en face. Le vieux ouvre celle qui est à gauche. Tu entres.
C'est une chambre avec un lit à deux places, armoire, commode, table de nuit, style Louis-Philippe d'époque. Jules tremble tout. Le vieux quitte sa redingote et son chapeau qu'il va mettre dans l'armoire. Puis, il va vers Jules, lui enlève son manteau. Il l'aide à l'enlever. Le vieux le pose sur le lit.
Déshabille-toi maintenant.
Tout nu?
Non. Reste en caleçon.
Le vieux va à l'armoire. Il prend une robe de chambre bleue. Jules est en caleçon. Il tremble tout. Le vieux va vers lui pour lui passer la robe de chambre et le frotter.
mon tout petit. Avec la ceinture, il l'enroule bien dans la robe de chambre, le frictionne bien. Puis prend le manteau pour le mettre dans l'armoire et va vers Jules. Viens t'allonger. Il aide Jude à s'allonger sur le côté, lui enlève ses chaussettes et lui frictionne les pieds. Puis il le recouvre de sa couverture. Il se penche vers lui, lui caresse ses cheveux. Que tu es beau. On dirait un bébé, un tout petit bébé. Tu te réchauffes un peu. Un peu, oui. L'on fera quand tu iras mieux. Jules sourit. Le vieux le frictionne sur tout le corps. Jules sent la chaleur de ses mains, ça lui fait du bien. Le vieux descend, mais laisse un espace entre le corps et les jambes pour ne pas toucher les fesses. Ça te fait du bien ? Oui. Le vieux lui donne un baiser et continue à le caresser par-dessus sa robe de chambre. Malgré lui, grâce à la chaleur et aux caresses, Jules commence à bander. Il sent que d'après les caresses du vieux, lui aussi commence à avoir de l'effet. Le vieux lui dit « Tu es bien. » « Oui. » Alors le vieux passe sa main sous la robe de chambre, ce qui fait frémir Jules. Le vieux lui touche la poitrine et descend. Il lui donne des baisers sur son visage et sur les lèvres. Sa langue essaye d'entrer dans la bouche de Jules qui s'entrouvre. Et leur langue se mêle, ce qui enivre encore plus Jules. Le vieux lui caresse les fesses. Il a chaud. Jules aussi. Il lui fait des bisous dans le cou. Les mains descendent en haut des cuisses. Jules écarte les jambes. Le vieux se dégage, lui ouvre la robe de chambre et lui descend son caleçon. D'un joli petit sexe. Il est bien formé. Jules hausse ses épaules. Il est petit. Il est beau. Le vieux se penche, lui embrasse les poils, le gland. Jules frissonne de plaisir. Le vieux lui suce les couilles et lui fait une pipe. Jules se laisse aller et se détend. Le vieux suce. Après que Jules ait joui, le vieux les nettoyait avec un mouchoir. Jules se sent faible et a envie de dormir. Tu as sommeil, mon petit lapin. Tu peux dormir. Il donne un baiser, le recouvre de la robe de chambre, s'allonge près de lui, se plaque contre lui. Jules dort et sent que le vieux le caresse un peu partout, en lui donnant des baisers. Puis, Jules s'endort profondément. Il rêve qu'il a un fils, un enfant beau comme un dieu. Il tend les bras pour le toucher, mais l'enfant s'éloigne. Il court au même endroit où Jules a rencontré le vieux. Puis, Jules voit une chambre où son fils endormi dans un lit avec un autre. Il lève la main. Sa main tient un couteau. Jules se réveille en sueur. Voit qu'il a une robe de chambre qu'il ne connaît pas. Il reconnaît le vieux qui repose près de lui. La lumière du jour baigne la pièce. Il revient vite à la réalité. Il vient de passer toute la nuit dehors. Il doit être tard. Il se soulève, secoue le vieux. Le vieux se réveille.
T'es déjà réveillé.
Il lui donne un baiser sur la joue.
Tu vas bien?
Oui. Le vieux se blottit contre lui.
Tu as une odeur extraordinaire. Une odeur de jeune homme. Je ne me laverai pas ma robe de chambre. Je m'y enroulerai pour sentir ton odeur.
Il lui donne un baiser sur la joue et enfonce sa tête à l'intérieur de la robe de chambre contre la peau douce et chaude de Jules. Jules lui dit, je dois partir malheureusement, il se fait tard.
Oui, je comprends.
Le vieux se dégage pour se lever.
Et Jules aussi se lève.
Je vais te chercher tes vêtements, à moins que tu veuilles prendre ton bain.
Non, je le prendrai chez moi.
Le petit déjeuner,
ça je ne peux pas te le refuser.
Oui.
Le vieux va à l'armoire lui chercher ses vêtements. Et le lui porte. Jules quitte sa robe de chambre et le lui donne. Le vieux la prend et lui dit
« Attends, avant de t'habiller, je veux bien te regarder. Tu es beau, très beau. »
Jules sourit et s'habille. Ensuite, le vieux l'amène à la salle à manger. La pièce est celle qui a la porte à deux battants et est vitrée. Salle à manger Louis XV. Il la fait asseoir.
Café?
Oui.
Confiture?
Oui. Comme toi.
J'ai pas de bonne. C'est pour être libre chez moi.
Et il va lui préparer le café. Et un quart d'heure plus tard, ils prennent leur petit déjeuner.
Le vieux lui demande, tu es étudiant?
Oui, je prépare pour être professeur d'histoire, mais en même temps j'écris quelques nouvelles.
C'est intéressant.
Je t'enverrai une.
Merci.
Et toi?
Moi je suis seul. Je ne fais rien, ou presque. J'étais professeur de chant. J'enseignais aux enfants. En ce moment, je prépare un ouvrage sur les castrats à travers le monde et le temps. Je ne parle pas des uniques, mais des castrats, c'est-à-dire le côté artistique de la chose.
Une fois qu'il est fini de manger, Jules se lève et dit
« Il faut que je parte, il est temps, bien sûr. »
Le vieux s'est levé et leur accompagne jusqu'à la sortie de son appartement.
Il le prend dans ses bras et l'embrasse. Il lui demande « On se reverra. »
Je ne sais pas, peut-être.
Je t'en prie.
Tu sais, une nuit comme celle-là, elle ne peut être qu'exceptionnelle et belle qu'exceptionnellement. Autrement, c'est plus la même chose. Nous nous sommes fait un beau plaisir, un beau cadeau tous les deux.
Merci. Tu veux me revoir? Tu sais où j'habite. Je suis chez moi à partir de 20h. Je m'appelle Bruno Sébastien Palmar.
Moi, Jules Bernardin. Il l'embrasse une dernière fois et Jules le quitte.
Une fois dehors, il se presse de rentrer, car il a peur que ses parents se soient inquiétés.
Et de 9h du matin, les rues sont animées. Il se dit qu'il va retourner se coucher et penser à cette nuit bizarre. C'est maintenant qu'on peut le désirer, que son corps peut apporter du plaisir. Apporter du plaisir aux autres, cela lui fait plaisir. Arrivé chez ses parents, un domestique lui dit
« Monsieur, madame votre mère désire vous voir. »«
Bien, où se trouve-t-elle ? » ?»«
Au salon, monsieur. Elle prend son petit déjeuner. »
Il va au salon. Entrez. Entre. Elle est assise à une petite table en déshabillé crème à prendre son petit déjeuner. S'avance vers elle.
Bonjour, mère. Oh, te voilà enfin. Assieds-toi.
Il s'assoit.
Il s'est assis en face de sa mère.
As-tu pris ton petit déjeuner ?
Oui, mère.
Alors, mon fils, tu passes la nuit dehors. Je ne vais pas te faire de scène pour cela. À ton âge, c'est normal. Mais je vais te demander une chose, c'est que si tu recommences, c'est de prévenir. Cela évitera que je m'inquiète. Je suis confus, mère. Bon, j'ai beaucoup réfléchi à toi ces derniers temps. C'est la dernière année de tes études. Et il faudra penser sérieusement à ton avenir. Tu es toujours d'accord de prendre la profession de professeur ?
Oui, mère.
Bien. Je connais quelqu'un qui a des relations avec le ministre de l'Enseignement.
Mais je souhaite aussi continuer à écrire.
Mais bien entendu. Maintenant, il va falloir penser à ta vie privée, à te marier.
Jules rougit. Elle croit qu'il aime une jeune fille et lui demande
« As-tu déjà une personne avec qui tu aimerais ?»«
Non, mère, personne. »«
Bien, c'est mieux, tiens mieux. Tu peux t'amuser, faire des fredaines. Mais après, quand il va falloir choisir pour te marier, ce sera autre chose. »
Pour la vie, ce sera pour la vie.
J'ai quelques noms.
Mais mère, j'ai encore le temps et puis il faut que j'y réfléchisse.
Bien. Pense-y et viens m'en parler. J'ai justement une jeune fille de toute beauté. Et nous en reparlerons. Et oui, le temps passe et il arrive un moment où il faut penser à l'avenir. Quand je dis urgent, tu as encore un peu le temps, mais enfin, il passe vite. Et il y a encore l'armée.
Si je pouvais m'en passer.
Ton frère l'a déjà fait. Enfin, je verrai avec ton père.
Jules commence à être fatigué. Il se lève et lui dit « Je crois que je vais me reposer un moment dans ma chambre. »
Voilà ce que c'est que de faire la fête toute la nuit. Elle était belle au moins.
Jules rougit.
« Oui. Eh bien, c'est le principal. Allez, va te reposer. N'oublie pas de déjeuner à 13h. »«
Oui, mère. » Et Jules quitte le salon.
Dans son lit, sa joie tombe. Elle pense à Sylvain, le beau Sylvain. Qui ne veut plus le voir. Il a envie de pleurer. Comment faire pour vivre sans lui, en le sachant si près et ne pouvant le voir? C'est trop terrible. Il l'aime, mais lui ne l'aime pas et ne peut l'aimer. Que faire pour reconquérir son amitié? Et dès que je l'aurai reconquéri, je resterai son ami. Pour le reste, tant pis. Comment faire pour le revoir? Aller chez lui, on ne doit sûrement pas me recevoir. Il reste jusqu'à l'heure du déjeuner, à se reposer, à se poser des questions. Puis, déjeuner en silence. L'après-midi, il le passe au salon, avec son frère Charles-André, à jouer aux échecs. Dehors, il fait toujours un temps aussi froid et triste. On a frappé à la porte du salon. Jules dit « Entrez !» Est entré le domestique qui va vers lui
et lui dit « Monsieur, il y a Monsieur Sylvain Dupin qui désirerait vous parler. Je l'ai surpris heureux. Bien, je viens. »
Se lève et suit le domestique. Et là, il trouve dans le hall d'entrée Sylvain.
Un manteau gris, le visage pâle, d'une beauté lumineuse. Je se dis, mon Dieu, qu'il est beau. Il va vers lui en souriant. Sylvain lui dit, bonjour, je suis venu te voir, c'est pour te dire des choses. Je lui dis, viens, allons dans ma chambre. Je tourne vers le domestique et lui dis, n'auriez pas dû laisser ce jeune homme attendre ici. Pardonnez-moi, monsieur. Et Jules prend Sylvain à l'épaule. Il se jure que cette fois, il fera tout pour ne plus le perdre, même en sacrifiant son plaisir et en cachant ce qu'il ressent pour lui. Sylvain lui demande, « Je dérange pas ? Tu travaillais peut-être ?»« Non, pas du tout. Je jouais aux échecs avec mon frère. » Et il va ouvrir la porte de la chambre.
Entre, Sylvain entre.
Sylvain la regarde et lui dit, elle est mieux que la mienne. Je lui réponds, moi je préfère la tienne. Enlève ton manteau.
Sylvain l'enlève.
Et le donne à Jules, qui sent qu'il est tout humide, mais malgré tout a encore son odeur.
Il va le déposer sur un cintre dans l'armoire. Et revient vers Sylvain.
Il doit faire froid dehors, tu es tout gelé. Oui, assez. Jules lui prend les mains, elles sont gelées. Veux t'allonger un moment? Non, ça va. Allons nous asseoir.
Et il le mène s'asseoir vers deux fauteuils qui sont en face d'une cheminée où le feu pétille.
Tu veux boire un cognac? Oui, merci. Cela me fera du bien. Jules appuie sur la sonnette qui est contre le mur. Tu te réchauffes? Oui, j'ai plus envie de bouger. Je sens que tout à l'heure, ça va être difficile de partir pour affronter le froid. J'en ai pas le courage. Je lui dis, tu n'as qu'à rester? Sylvain lui dit, toujours? Pourquoi pas? Lui répond Jules heureux en se disant que ça pouvait être vrai. On a frappé à la porte. Entrez.
C'est le domestique. Sylvain lui dit, amenez-nous à boire du cognac. Bien, monsieur.
Sylvain lui dit, je suis venu te dire, c'est que je regrettais ce que je t'ai dit hier au soir. M'en excuse. Je lui dis, j'ai eu très peur de te perdre. Sylvain continue. Tu comprends, j'étais triste à cause d'Apolline. Et ce que tu m'avais dit, ça m'avait fait de la peine. J'ai réfléchi et j'ai compris que tu as raison. Il faut que je l'oublie. C'est pas facile, mais il le faut. On a frappé à la porte. Entrez. C'est le domestique qui vient avec un plateau, qui va le déposer sur la table qui est devant eux. Merci, je vais servir. Et le domestique ressort. Et Jules fait le service. elle entend un à Sylvain. Ils boivent en silence.
Jules voit le visage de Sylvain éclairé par les flammes. Son visage est beau et lumineux, sa peau lisse, sans le moindre duvet, ses yeux brillants. Il regarde ses mains aussi, des mains fines et blanches, des mains d'enfant. Sylvain repose le verre et sourit à Jules et lui demande, « Tu vas mieux ?»«
Oui, merci. J'ai chaud à l'intérieur de mon corps. »
Après une pause, il lui dit, « Il y a une chose, mon médecin m'a dit qu'il faut que je quitte Lyon quelques mois. Il trouve que la ville est malsaine pour moi, trop humide. »
Jules a la gorge serrée et lui demande,
« Alors, ma mère aussi, il paraît que c'est important que je change de climat. J'étais obligé de partir. Quand ? Je ne sais pas encore. Où ?»
Il hausse ses épaules et lui dit, « J'en ai aucune idée. Je dirais ça,
mais que ça ne me dit absolument rien de partir. Mais si je pars, c'est ma santé. Si je ne pars pas, c'est ma santé qui risque de se détériorer. »
Jules est triste et lui dit,
« Alors il le faut. Devoir partir combien de temps ?
Je ne sais pas.
Au moins 6 mois.
Tant que ça ?
Oui, et ça m'ennuie beaucoup de partir 6 mois seul, vivre au milieu d'inconnus. J'en ai pas du tout envie.
J'ai pensé à une chose, je pourrais attendre que tu aies fini ton année d'études et on pourrait partir ensemble. Si ça te va,
je les fous de joie. J'en suis flatté. Ça me fait un immense plaisir.
Oui, je veux bien.
Sylvain sourit et lui dit, j'avais peur que tu me refuses. Je suis soulagé. Merci. Tu verras. Je me traînerai très bien. Merci.
Radio Canut vous a présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la sublimation, dont c'était la 33e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP.